ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 21 mars 2016. Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, Maxime Despomerleaux avec vous. Ma voix a un petit peu changé par rapport à la semaine dernière. C'est avec une voix enrouée que je vous accueille ce midi. Mais de toute façon, ma fonction à Ça vaut le détour est surtout de faire parler nos invités. Donc, je devrais m'en sortir. Ça vaut le détour, une nouvelle édition aujourd'hui, votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic CVLD ou @canal_m pour réagir aux propos de nos invités ou nous soumettre des sujets d'actualité. Aujourd'hui à l'émission, on parle de la mission du Camp Papillon de la Société pour les enfants handicapés du Québec qui veille à offrir à des jeunes vivants avec un handicap l'occasion de participer à la vie de plein air dans un camp de vacances adapté et sécuritaire. On s'entretient avec la directrice Alix Gauthier-Loisel à 12h45. Vous savez, à partir de 65, 60, parfois même 55 ans, les aînés peuvent recevoir certains rabais lors d'achats dans de nombreuses entreprises, autant que sous la forme de crédits d'impôt. Dans un article paru le 11 mars dans le magazine L'Actualité, on questionnait la pertinence de ces rabais, notamment parce que la situation économique des aînés s'est améliorée depuis 40 ans. On en parle avec M. Danis Prudhomme, directeur du réseau FADOC. On reviendra aussi sur le dépôt du budget provincial. On reçoit M. Sylvain Noël, le président de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, la seule troupe adaptée du Québec. On parlera de la théâtrodescription, une adaptation de la mise en scène pour permettre aux aveugles et amblyopes de vivre une expérience théâtrale complète. Le 21 mars, aujourd'hui, est la Journée mondiale de la trisomie 21. Pour cette occasion, le Regroupement pour la trisomie 21 invite toute la population à célébrer la différence et participer à un environnement inclusif pour les enfants d'aujourd'hui et les adultes de demain. J'accueille en studio Mme Geneviève Labrecque, directrice générale du Regroupement pour la trisomie 21. Bonjour Mme Labrecque.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Journée très spéciale pour le Regroupement. Mm-hmm. Tout d'abord, depuis quand est-ce que le 21 mars est associé à la Journée pour la trisomie 21?
En fait, il y a 11 ans, un organisme français a fait le lien, a décidé en fait de faire que le 21 mars, la Journée mondiale de la trisomie 21. Alors, mars étant le troisième mois, le 21 n'a pas été choisi pour rien. Donc, c'est pour souligner cette journée-là, pour célébrer ces personnes un peu différentes qui ont décidé de choisir le 21 mars. Et c'est une journée aussi qui est reconnue par l'ONU depuis quelques années.
Donc, on peut dire que c'est l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21.
Exactement.
C'était leur initiative. Ils ont un bon sens du marketing.
Ah oui, ils ont eu une très bonne idée.
Revenons tout de même, résumons brièvement, qu'est-ce que la trisomie 21?
En fait, la trisomie 21, c'est un état. Ce sont des personnes qui arrivent avec un chromosome supplémentaire sur la 21e paire. Ce qui affecte que ils ont une déficience intellectuelle et aussi une déficience physique. Ce sont souvent des personnes de plus petite taille, avec des yeux bridés, avec des oreilles un peu plus basses, un cou plus épais. Ils sont un petit peu plus trapus, les mains un peu plus courtes. Donc, ils ont des traits physiques très différents de la population en général. Et le faciès s'explique aussi parce que notre visage se développe sur notre 21e chromosome. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un faciès, tous, on dirait, un peu semblable. Mais ils ont aussi un côté génétique qui ressemble à leurs parents aussi. Ils ne sont pas tous pareils, identiques. Et c'est généralement accompagné d'une déficience intellectuelle variable entre légère et moyenne. En règle générale, c'est une déficience moyenne, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Ça dépend des goûts, des intérêts de chaque enfant et aussi de la stimulation qu'ils reçoivent.
Depuis quand le Regroupement pour la trisomie 21 existe-t-il?
En fait, en 2016, on va célébrer notre 30e anniversaire. Donc, ça fait 30 ans qu'un groupe de parents se sont réunis. Ça a commencé dans un sol de maison avec un souper aux spaghettis. Et on a grossi. Maintenant, on est rendu avec 4 employés permanents, une vingtaine de contractuels et plus d'une centaine de bénévoles qui accompagnent l'équipe permanente, le conseil d'administration, pour favoriser le plein développement des personnes qui ont une trisomie 21.
On parle justement de vraiment un objectif d'inclusion sociale dans différentes sphères, que ça peut être autant notamment à l'école, mais aussi sur le milieu du travail. Mm-hmm. Sur quel front est-ce que travaille le regroupement et c'est quoi les besoins qui étaient importants au départ, à la création mm-hmm. de l'organisme et maintenant?
En fait, c'est ce qui est très drôle, c'est que ça n'a pas changé depuis 30 ans. Les besoins au départ, c'est de ne pas se sentir seul à vivre la naissance d'un enfant différent. Souvent, les familles ont à faire le deuil de l'enfant qu'ils espéraient, l'enfant parfait. Donc, de savoir qu'il y a d'autres parents qui sont là autour, qui peuvent les aider, les accompagner, ne serait-ce qu'en leur disant « moi, je suis passée par là, voici les trucs et conseils que je peux t'échanger ». À la base, c'est vraiment de se regrouper pour échanger. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs activités familiales pour aider les familles à briser leur isolement. Ensuite, c'est certain qu'on peut travailler sur plusieurs fronts en même temps. On croit beaucoup à l'inclusion, c'est certain. Les enfants à la garderie ont accès au même traitement que les autres. C'est ce qu'on favorise beaucoup. C'est sûr que l'école, c'est la suite logique après la garderie, c'est d'aller à l'école comme les autres et éventuellement le marché du travail. Donc, on travaille sur tous ces fronts-là, pour essayer de développer vraiment le plein potentiel des enfants.
Vous êtes présent dès le diagnostic
exact.
À la naissance.
Oui. Donc, si une femme l'apprend en cours de grossesse puis qu'elle va avoir une information, elle va avoir des renseignements, savoir c'est quoi la trisomie 21, elle peut nous contacter. Nous, c'est sous forme très anonyme. On ne demande pas le numéro de téléphone, le nom de la personne. Donc, on la laisse décider par elle-même de son choix. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux côtés de la médaille, parce qu'il y a le côté médical, où là, ils vont nous expliquer que tout ce qui peut arriver comme problématique, mais on n'est pas avec toutes les problématiques qui existent sur la planète non plus. Donc, on fait juste rééquilibrer le tout.
Mm-hmm. Et vous offrez aussi des services professionnels qui sont plus accessibles que des services dans le privé et qui peuvent notamment être en complément aux services offerts dans le réseau public.
En fait, on s'est rendu compte il y a quelques années que les familles attendaient de plus en plus longtemps dans le système public pour avoir accès aux services spécialisés. Le conseil d'administration a décidé à cette époque-là de prendre une décision, en fait, de dire « ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas laisser un enfant qu'on sait qu'il a besoin de physiothérapie attendre pendant un an ». Donc, on a développé une expertise, on a été chercher des physiothérapeutes, des ergothérapeutes pour venir aider les familles en attente de services. Et dès que le service public est là, le regroupement se retire. C'est très ponctuel, c'est à peu près 6 à 7 journées par jour et ce sont des frais vraiment modiques pour les familles. Donc, on essaie d'accompagner ceux qui n'ont rien en ce moment et en même temps, ils viennent, ils ont accès aux services et on les aide aussi à avancer leur dossier dans le système public pour qu'ils soient plus pris en charge plus rapidement.
Mm-hmm. Donc, c'est aussi un service d'accompagnement.
Exact.
Vous avez aussi des services de loisirs?
Oui, beaucoup. En fait, les jeunes qui ont une trisomie 21 aiment bien se retrouver entre eux parce que nos amis nous ressemblent aussi. On croit beaucoup à l'inclusion et on fait aussi des activités seulement pour les personnes qui ont une trisomie 21 aussi pour qu'ils puissent s'extérioriser bien également. Donc, on a des cours de théâtre offerts aux personnes qui ont une trisomie 21. Alors, présentement, on en a 20 dans notre cours de théâtre. Qui vont faire un spectacle à la fin du mois de juin. Ça se déroule super bien. Et dans notre groupe, on en a qui sont pratiquement non-verbales et on en a qui savent des textes, à ma foi, très surprenants. On a aussi des activités tous les vendredis soirs parce que souvent, le vendredi, quand on est adolescent, on sort avec nos amis. Les personnes qui ont une trisomie 21 n'ont pas nécessairement la même rapidité que les autres pour prendre le téléphone et s'organiser des activités. Donc, nous, on a des activités sociales tous les vendredis soirs. Dans notre groupe, présentement, on en a entre 25 et 30 chaque vendredi qui viennent. Alors, ça va du cinéma maison, des sorties dans les maisons de la culture. Quand on arrive une trentaine de jeunes, on prend de la place et on aime beaucoup ça. Et on a aussi des activités de sport, de loisirs. On a une équipe de course qui commence à la fin du mois de mai, qui vont s'entraîner tous les mercredis. Qui s'appelle les Formules 21. Alors, ce sont eux qui ont trouvé leur nom, c'est pas nous. Et ils s'entraînent pour le 1 km pour la course 3-2-1 Go qui va avoir lieu à la fin du mois d'août. Et cette année, ils vont faire une deuxième course. Ils vont participer à la course équitaire Changer le monde qui va avoir lieu au mois de juillet. Donc, notre équipe de course va faire deux courses officielles cette année. Alors, notre but, c'est de faire de la sensibilisation.
Justement, bon, équitaire, c'est un exemple. Est-ce que pour arriver à faire toutes ces activités, vous avez des collaborateurs, vous avez des partenariats?
Pas beaucoup,
pas beaucoup,
en fait.
Vous arrivez vraiment à faire ça par vous-même, vraiment, mais donc vous avez besoin d'un certain soutien tout de même pour arriver à faire ces activités.
Par rapport à Équiterre, c'est un contact, c'est une maman qui a un enfant qui a une trisomie 21 qui nous a aidés par le passé. Donc, on a décidé de faire une collaboration avec elle pour poursuivre notre mission, qui est de l'inclusion sociale. Pour nous, une personne qui a une trisomie 21, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire d'autres courses que juste celles du regroupement. Donc, on veut les amener, on veut les sortir et on veut montrer qu'ils ont leur place comme tous les autres. Dans nos événements qu'on fait, il y a toujours des bénévoles qui ont la trisomie 21 et des participants qui ont la trisomie 21 et on essaie de les inclure le plus possible.
Comment est-ce qu'on peut soutenir l'organisme et comment, quelles sont vos sources de financement?
En fait, nous, on est subventionné seulement à 24 % de notre chiffre d'affaires. Tout le reste, ce sont des dons, des commandites, des partenariats. On reçoit beaucoup de dons de familles, de gens autour de nous qui nous soutiennent. C'est certain que sans... on a aussi trois grands événements de levée de fonds dans l'année. On a la course 3-2-1 Go, que je vous parlais tout à l'heure, où on a autour de 1000 personnes qui viennent courir un 5, un 10 km et un km au parc Maisonneuve. On a une activité de levée de fonds qui s'appelle Action 21 qu'on partage avec un autre organisme. Et on a aussi notre super bénéfice qui s'en vient au mois de mai dans le restaurant de Chantal Fontaine dans le Vieux-Montréal. Alors ça, c'est ouvert aux gens d'affaires parce que le billet est de 500 $, mais c'est un souper accord mets vins et on en a vraiment pour notre argent.
On reviendra sans doute pour, pour reparler de ces activités de financement qui s'en viennent. En terminant, Madame Labrecque, aujourd'hui, 21 mars, y a-t-il des activités spéciales à surveiller?
En fait, il y a plusieurs choses à surveiller partout dans le monde, mais ici, nous, ce qu'on a décidé de faire, on a une exposition de photos au Jarry 2e, qui se trouve être un café-bistrot qui font de l'inclusion sociale. Donc, depuis le 1er mars et jusqu'au 31 mars, on a une exposition de photos faite par nos jeunes qui ont une trisomie 21, qui se sont promenés dans la ville, qui ont pris des photos de grande qualité. C'est magnifique. On a aussi fait, vendredi soir et samedi dernier, un shooting photo avec nos familles membres, ceux qui étaient volontaires. Et on a fait une petite vidéo qu'on a mis en ligne aujourd'hui pour faire de la sensibilisation. Donc, c'est nos deux grands événements pour la Journée mondiale de la trisomie 21.
Tout à fait. La vidéo est disponible sur YouTube et sinon aussi sur les réseaux sociaux.
Exact.
J'invite les auditeurs à aller visionner. Merci beaucoup, Geneviève Labrecque. Vous êtes directrice générale du regroupement pour la trisomie 21. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Châtelet-Léa, bientôt je prends le train. Dans la pluie du petit matin, est-ce que tout le monde peut voir mon chagrin? Je veux chasser mon vague à l'homme, déposer les armes, essuyer les larmes. Il est temps de passer aux aveux et se regarder dans les yeux. Dieu qu'on mérite mieux, si seulement on cessait le feu. Que tu m'as pris ne me reviendra pas. Toi, tu te victimises, comme c'est toujours le cas au jeu des sentiments. Je n'étais qu'un débutant. Tu verras bien dans quelques temps tout ce qui monte redescend. J'apprends la leçon et j'encaisse le choc. Je change d'horizon. Avant que je ne suffoque, Dieu sait que je vois notre union. Solide comme le roc, et au cimetière des amours morts, nos histoires se disloquent. Je veux seulement plus de haine, plus de peine. Vois-tu tout ça nous mène? Infiniment, ça ne
finit plus, ça ne fait qu'augmenter la colère. Alors que nos options diminuent, c'est comme jouer à la roulette russe, sachant que c'est un jeu qui tue. Si on ne t'aime plus, au moins respectons-nous en tant qu'individu. Comment l'amour devient la guerre du paradis à l'enfer. Faut laisser aller, pas passer toute sa vie à s'en faire. C'est quand même élémentaire, mais l'amour quel grand mystère. Plus ou moins la même histoire, mais en divers exemplaires.
Ouais, tout ce qu'on a démoli, et entends-moi.
J'ai le dernier mot à dire. Tu peux bien garder le fort, mais tu devras un jour me rendre mon trésor.
C'est le feu, featuring B.U. de Soul. C'est un artiste que je découvre aujourd'hui. C'est tiré de son album Drop Your Guns, une parution de 2016. Et les auditeurs de Canal M, il y en a plusieurs qui sont habitués avec le concept de la vidéo-description qui, en fait, raconte les différents éléments visuels qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est aveugle ou amblyope, ce qui se passe à la télévision et au cinéma pour s'assurer qu'on ait tous les éléments de l'intrigue. On peut aussi transporter ce concept au théâtre et ça donne la théâtrodescription. J'ai vraiment hâte de découvrir tout sur ce concept. Et c'est l'Académie théâtrale L'Envol de Laval qui sont les premiers à mettre de l'avant la théâtrodescription. J'accueille en studio le président de l'Académie, M. Sylvain Noël. Bonjour.
Bonjour, mademoiselle.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, quelques mots sur L'Envol, qui est une troupe de théâtre amateur. Depuis quand est-ce que vous existez?
Exactement. Nous existons depuis le 20 août 2007, donc nous allons fêter notre neuvième anniversaire, exactement, cette année. Et on est un organisme de loisirs qui permet aux résidents lavallois de pouvoir vivre leur petit moment de gloire sur la scène une fin de semaine par année.
Une fin de semaine par année, donc on parle d'une production par année.
Oui.
Et à quel moment est-ce que vous avez ajouté la théâtrodescription à vos représentations?
C'est malheureusement, lors d'un événement malheureux, ma sœur a perdu la vue au mois d'avril 2012 et en tant qu'accompagnateur, mon frère et moi, on s'est aperçu qu'il n'existait absolument rien au niveau accompagnement narratif au théâtre. Alors, puisqu'on avait déjà cette troupe de théâtre-là à Laval, c'était une troupe familiale à ce moment-là, nous avons décidé de tenter de développer ce concept-là. On ne savait pas à quoi s'attendre du tout. Et finalement, ça a fait boule de neige et les collaborateurs que nous avons maintenant nous permettent d'offrir un service de théâtrodescription d'excellente qualité aujourd'hui.
Justement, on parle de vidéodescription qui est tout de même connue à la télévision, au cinéma. Quels éléments vous avez pris pour les mettre au théâtre? Comment est-ce que cette adaptation-là s'est faite?
L'adaptation s'est faite... oui, ça peut sembler similaire à ce qui se fait à la télé, mais c'est tellement différent. Je ne sais pas, comment se fait la vidéodescription à la télé. J'ai eu la chance de rencontrer une seule fois des collaborateurs de la CET post-production, qui font la vidéodescription. Mais le concept est tellement loin, parce que nous, c'est live, c'est pas enregistré. Donc, nos narrateurs doivent suivre les comédiens dans leur répétition pour très bien connaître la pièce. Ils doivent préparer leur texte narratif, un petit peu comme ça se fait à la télé. Mais le concept est tellement loin, on est sans filet. Si les comédiens sautent une page, il faut
Absolument.
Que le narrateur saute une page.
Donc, il faut vraiment être extrêmement attentif. Est-ce que c'est vraiment un complément au dialogue qui se passe sur scène? Est-ce qu'on lit les didascalies? Est-ce que si on prend le scénario à la télé ou au cinéma, est-ce que là, est-ce que vous mentionnez aussi tous les éléments de décor, l'éclairage?
Ce qu'on fait, c'est que oui, de prime abord, avant que la pièce commence, les personnes ayant des limitations visuelles sont en mesure d'entendre le descriptif des décors qui tournent en boucle, c'est enregistré. Et là, à ce moment-là, ils peuvent se faire une image mentale des décors. Pour le reste, c'est sûr que d'une pièce à l'autre, les éléments narratifs sont extrêmement différents, comme dans la production de la semaine prochaine. Il n'y a pas beaucoup de déplacements, alors c'est beaucoup plus les émotions que nous allons décrire. Mm-hmm. Mais c'est différent d'une production à l'autre.
Vous décrivez le non-verbal des comédiens, des gestes? Ou...
Quand c'est possible.
Quand c'est possible, quand on a possible. Le temps.
Ben oui, parce que comme à la télé, on essaie le plus possible de pas... Le narrateur essaie de ne pas empiéter sur le dialogue des comédiens.
Et la plus grande difficulté, c'est justement cet aspect d'être en direct, finalement.
Oui.
Comment est-ce que... Qui fait la narration, premièrement? Est-ce que ce sont d'autres comédiens expérimentés? Ce sont des bénévoles? Comment est-ce que vous formez ces gens-là?
C'est des gens, prioritairement, qui ont à cœur de rendre service aux personnes non-voyantes, et ils y tiennent. Nous les formons, oui, avec l'expérience que nous avons acquise au cours des trois dernières années. Mais c'est d'abord et avant tout des gens de cœur, des gens qui veulent rendre service. Et à ce niveau-là, bon, on a la chance d'avoir parmi les pionniers comme narrateur, M. Hans Brouillette, qui est relationniste et porte-parole de la Corpic et qui a déjà une carrière radiophonique très bien établie. Donc, c'est notre pilier comme narrateur. Mais là, comme celle-là, il y en a d'autres qui s'ajoutent parce qu'on a de plus en plus de demandes.
Et ça se développe. Comment est-ce que ça se passe sur le plan technologique? Parce qu'il faut le dire, ce sont seulement les personnes qui en ont besoin ou qui le désirent, du moins, parce que ça peut être aussi pour seulement augmenter le volume pour mieux entendre les comédiens sur scène. Mais donc, il n'y a pas un comédien sur le côté de la scène et tout le public entend. C'est vraiment un service précis.
Absolument. Et à ce niveau-là, on a la chance là, d'avoir un système qui est tout neuf, qui nous a été vendu par la firme Sennheiser, la firme allemande. Et la narration de notre narrateur, la voix de notre narrateur, est retransmise via tout téléphone intelligent. C'est la beauté du système. N'importe qui a un téléphone intelligent, Android, iPod, iPhone, iPad, peut se brancher sur notre système en ayant préalablement téléchargé l'application Sennheiser Mobile Connect. Et une fois rendu en salle, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se branche, il met ses écouteurs et on entend la voix du narrateur, tout simplement. Et pour les personnes malentendantes, bien, ils ont le contrôle complet de la voix des comédiens. Si c'est pas assez fort, ils montent le volume, mais sans voir la voix du narrateur.
Mm-hmm. Et sur place, est-ce que vous avez des appareils pour ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent?
Absolument. On a 25 iPods que l'on peut prêter. On privilégie l'autonomie et les personnes non-voyantes et malentendantes, eux aussi apprécient ne pas avoir d'appareil à emprunter. Donc, de plus en plus, les gens téléchargent l'application sur leurs propres appareils, ils arrivent en salle, ils sont complètement autonomes.
Toute cette technologie engendre des coûts. Comment est-ce que vous financez votre projet?
Ben écoutez, le concept a une telle popularité qu'à venir jusqu'à maintenant... c'est la Ville de Laval, prioritairement, qui nous a financé le système Sennheiser Mobile Connect via la Conférence régionale des élus, qui est en toute fin de vie, malheureusement, ainsi que le Centre local de développement, qui est en fin de vie eux aussi. Mais au-delà de ça, le gouvernement du Québec aussi, via le soutien à l'action bénévole, via les différents ministères, le ministère de la réadaptation, le ministère des Affaires municipales, les élus provinciaux de Laval cotisent et supportent les coûts qui sont liés là, jusqu'à maintenant liés à la théâtrodescription.
Il y a une belle mobilisation de la Ville de Laval, entre autres, pour rendre ça accessible à ses citoyens, à son public. Est-ce que vous avez des demandes d'autres troupes ailleurs, dans d'autres régions, qui souhaiteraient implanter le même système?
Absolument. Le concept, vraiment, connaît une effervescence. Nous avons eu une première collaboration l'automne dernier avec la troupe Talia de la Place des Aînés. Et cette première collaboration-là nous a amené d'autres demandes. La Ville de Québec, la troupe L'Imagerie de Québec tient à ce qu'on adapte sa pièce de l'an prochain. On a le Festival des Molières à Laval qui vont célébrer la Semaine québécoise des personnes handicapées. Dans la première semaine de juin, notre production va être présentée en théâtre aux descriptions au Festival des Molières. On a le Festival de Victoriaville au début juillet aussi qui tient à présenter des pièces en théâtre aux descriptions dans la belle région de Victoriaville et un partenariat inespéré, inattendu. Nous avons conclu une entente avec Altergo. Altergo va se servir de notre système pour commenter la finale du Hockey Luge à l'aréna Howie Morenz le 1er mai prochain. Ça va permettre aux personnes non-voyantes de pouvoir s'imaginer ce qui se passe sur la glace. Ça, c'est un partenariat vraiment inespéré. Donc, il faut absolument que vous soyez là pour vivre cette expérience-là.
Justement, cette finale qui aura lieu dans le cadre du défi sportif Altergo.
Absolument.
Justement, c'est tout un défi. Là. On part quand même du théâtre. Il y a des répétitions, il y a des comédiens, on a un texte sur lequel se fier. Et là, le hockey luge, c'est devenir des commentateurs de hockey.
Absolument, c'est carrément ça. Le principe existe quand on écoute un match de hockey à la télé, à la radio. C'est de la théâtrodescription pour un match de hockey. Alors, Altergo va se servir de notre système pour faire la même chose qui se passe au Centre Bell pour les matchs du Canadien.
Tout à fait, et qu'on peut écouter à la radio aussi. Et donc,
absolument,
on n'a pas besoin, on sait quand même qu'est-ce qui se passe sur la glace, même si on l'a seulement dans nos oreilles. Vraiment fascinant comme procédé. On espère que ça va se démocratiser et se retrouver dans d'autres compagnies de théâtre aussi. Merci beaucoup de contribuer à l'inclusion sociale des personnes handicapées via votre troupe. En terminant, si on va avoir plus d'informations sur les productions qui s'en viennent, où on va?
Vous venez sur le site de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, le www.théâtrelenvol.ca, et en même temps, bien, vous allez pouvoir aussi profiter de notre site Internet pour télécharger l'application sur votre téléphone intelligent.
Merci beaucoup, Sylvain Noël. Je rappelle que vous êtes président de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval. Vous avez mis de l'avant ce concept de la théâtrodescription. Vous êtes la première troupe de théâtre adapté au Québec.
Et la seule.
Et la seule. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, mademoiselle.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerlo.
J'en parlais en début d'émission, cet article paru dans le magazine L'Actualité le 11 mars dernier qui s'intitule « Faut-il abolir les rabais pour les aînés? » Donc, on questionne cette pertinence d'avoir des rabais pour les aînés autant au niveau des entreprises que parfois au niveau du gouvernement. Pour faire la lumière sur cette question, je joins au téléphone M. Danny Prudhomme, directeur du réseau FADOC. Bonjour, M. Prudhomme.
Bonjour à vous.
Tout d'abord, il faut faire la distinction entre ces deux sortes de rabais pour les aînés, ceux des entreprises privées, qui représentent surtout une décision d'affaires, et ceux aussi octroyés par l'État sous forme de moindres coûts ou de retour d'impôts, par exemple.
Oui, bien, en fait, tout à fait. Du côté de l'entreprise privée, on voit bien que souvent, les rabais qui sont offerts, bien, c'est parce que ça leur bénéficie à eux, dans le sens que on va offrir ces rabais souvent dans les journées de semaine où c'est moins achalandé dans leurs magasins ou dans leurs centres commerciaux. Donc, de rentabiliser leur opération tout en ayant des gens qui vont dépenser dans leurs établissements. Ça, c'est le côté privé dans bien des cas, c'est ce qu'on voit. Du côté de l'État, Bien, il y a toujours la même mentalité à l'arrière au niveau de l'État de dire on a des gens qui ont travaillé toute leur vie, nos bâtisseurs qui maintenant sont à la retraite et qui ont un revenu moindre. Et de l'autre côté du spectre, on a des étudiants qui commencent leur vie, qui ont aussi des revenus moindres. Donc, ces deux bouts du spectre-là ont des rabais, que ce soit dans différents endroits là, publics, là, musées et choses autres du genre.
Et quels sont les arguments évoqués par ceux qui pensent qu'on devrait abolir les rabais pour les aînés?
Ben écoutez, dans un premier temps, on dit que les gens sont beaucoup plus riches aujourd'hui. Faut mettre les choses en perspective quand on dit ça. Oui, si on regarde le montant d'argent qu'une personne recevait il y a 10, 20, 30 ans par rapport à aujourd'hui, bien entendu, il a évolué de façon positive. Mais quand on compare au reste de la société, les aînés sont toujours le groupe le plus vulnérable au niveau des revenus. Donc, il faut mettre ça en perspective là quand on regarde le portrait. La deuxième chose, c'est qu'on a des statistiques qui disent qu'au Québec, actuellement, on a toujours 44 % qui sont ce qu'on appelle, qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Mm-hmm. Et ça, ça veut dire qu'on a un revenu de moins de 22 000 annuellement. Donc, on a tout près d'un aîné sur deux qui est autour de 20 000 par année. Là.
Oui, c'est une prestation mensuelle fédérale.
Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près près de 50 % qui ont un revenu de moins de 24 000 par année, là. Donc, on faut pas penser qu'ils sont riches à la retraite, là, avec ça. On va, parce que là, si on regarde dans les dernières quelques semaines, n'étant pas dit quelques mois, le panier d'épicerie, on regardait la nourriture, ces choses-là, ça augmente à vitesse grand V pour tout le monde. Mais quand on est à la retraite avec un revenu fixe, toutes ces augmentations-là viennent diminuer davantage notre pouvoir, puis ça affecte là, grandement là, la qualité de vie. Là.
Mm-hmm. Il y a aussi certains arguments démographiques. Avec le vieillissement de la population, ça peut finir par représenter beaucoup de rabais au final.
Ben, écoutez, ça, la démographie, on va l'avoir pour à peu près encore quoi, 30 ans, là, si on s'entend sur des chiffrons, là, pour il y en a qui vont dire 40, d'autres 20, là, mm-hmm. Donc disons une trentaine d'années. Et ben ça, ça fait longtemps qu'on sait qu'on va avoir, avec le boom au niveau des naissances, donc ce qu'on appelle le baby boom, ces gens-là, on savait il y a 40 ans qu'ils allaient arriver aujourd'hui à l'âge de retraite. Aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent à peu près entre 55 et 75. Je fais encore des chiffres. Front, là, pas me faire, comme on dit, reprendre par des personnes. Mais en gros, on en a pour à peu près un autre 30, 40, 30 ans en moyenne à ce que la démographie continue à vieillir. Après ça, la pyramide va avoir repris l'état, entre guillemets, plus normal qu'on connaissait avant. Mm-hmm. Ben, là, il y a plein de choses. Là, on parle de rabais, mais entre autres, il y a bien d'autres choses qu'on aurait dû s'attarder. Si on pense à toutes nos infrastructures au niveau système de santé, mm-hmm. Au niveau des systèmes de pension, au niveau de la qualité de vie quand on arrive en fin de vie, on finit plus aujourd'hui à 72 ans comme il y a plusieurs années, mais on peut vivre maintenant facilement l'âge moyen 83, 84 ans, si je ne m'abuse. Donc, on a gagné comme un 10 ans d'espérance de vie, mais on n'a rien adapté dans notre société face à ça.
Mm-hmm. Et justement, le point de vue de la FADOC sur l'importance de ces rabais, parce que il faut le dire, il y en a quand même des rabais, même si c'est au niveau des entreprises, qui incitent les aînés à bouger, à sortir, à participer à la vie communautaire et sociale.
Bien, tout à fait. Ça fait partie de la qualité de vie en général. C'est-à-dire que ce soit à n'importe quel âge, je pense qu'on nous demande de, un, prendre bien soin de ce qu'on mange et prendre bien soin de notre corps en continuant à l'activer. Faut pas oublier que les gens qui sont à la retraite souvent, donc les aînés d'aujourd'hui, vont majoritairement être des bénévoles. La FADOC a 15 000 bénévoles sur des conseils d'administration à travers la province. Donc, la FADOC n'existerait pas sans ces gens-là. Et ces gens-là continuent à dépenser, ces gens-là continuent à consommer au niveau de tout ce qui est d'acheter dans la société. Donc, de leur donner des rabais à ces gens qui ont bâti la société, c'est pas en leur enlevant qu'on va améliorer le sort des autres. Je sais qu'il y a des gens qui disent ben on devrait aller sous la forme de ben quel est ton revenu, tu auras donc un rabais ou pas. Et là, on rentre dans des choses beaucoup plus compliquées. Imaginez-vous, vous promenez avec votre rapport d'impôt pour savoir si vous avez droit à votre rabais ou pas. On a voulu, dans notre société, aller simple. Nos aînés, les plus vulnérables toujours aujourd'hui, et nos étudiants qui commencent leur vie et qui ont plus de difficultés à joindre les deux bouts, on leur donne des rabais, que ce soit au cinéma, transport, musée. Puis je pense que les familles qui ont des enfants, c'est tant mieux parce qu'il y a aussi des rabais familles quand on va dans certains centres ou certaines activités. Arrêtons de faire un débat qui est tant qu'à moi, le débat ne se positionne pas là. Le débat se positionne dans la qualité de vie, puis ce que le gouvernement doit faire pour en assurer une à ses concitoyens, puis faire des débats publics sur qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on veut comme société, comme système de santé, comme système de retraite. Ça, ce sont les vrais débats.
Pourquoi est-ce que vous croyez que ce débat, soudainement, atteint les médias et on remet en question ses privilèges?
Ben écoutez, on va se dire les quatre vérités, parce que tout le monde sait le diable par la queue pour arriver. Parce qu'il y a tellement d'augmentation dans tout, et pas de petites augmentations, que les gens se cassent la tête. Écoutez, on voit le taux d'endettement, là. Les gens s'appauvrissent année après année. La semaine dernière, on le voyait aux nouvelles, au niveau de les gens ont 150%. Donc, s'ils ont un revenu 100%, ils ont 150% d'endettement, donc à peu près 50% en moyenne de plus que ce qu'ils ont comme revenu, comme endettement. Mm-hmm. C'est terrible quand on voit ça. Puis c'est pas parce que les gens... Bon, il y a toujours des exceptions, là, mais c'est pas parce que tout le monde se paye des voyages dans le Sud, c'est pas parce que tout le monde a les dernières technologies. Ben non, il y a 60% d'augmentation sur la viande dans le panier d'épicerie, 30% sur les légumes, 20% sur les produits céréaliers et laitiers, 4,5% d'Hydro-Québec dans les dernières années, 15% Hydro-Québec. On n'est plus capable. La société en général n'est plus capable d'arriver. Mm-hmm. Et ça, le gouvernement, lui, ça fait son affaire quand il y a des débats sur des petits rabais, des débats sur des petites choses comme ça, parce que ça lui libère les mains pour faire autre chose. Par contre, ce ne sont pas les bonnes choses qu'il fait.
Mm-hmm. Le 17 mars dernier, le gouvernement du Québec a déposé son très attendu budget. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour en parler. Quelles étaient les attentes de la FADOC par rapport au budget provincial?
Ben, écoutez, trois différentes politiques de maintien à domicile que les différents gouvernements déposent. Et quand on regarde grosso modo les chiffres qu'on aurait besoin là-dedans, avec la société qu'on a actuellement, tout ce qui est du système de santé à réinventer, on va le dire comme ça, ce serait de l'ordre de 500 millions, bien même ça serait pas assez. Dans le budget, le gouvernement a mis 80 millions à trois items en santé, dont un était le maintien à domicile. Et quand on regarde le 80 millions, ça va à peine couvrir les coûts du système. Donc finalement, il reste pas grand-chose pour le maintien à domicile. Donc finalement, nos bottines suivent pas les babines, là, parce que on a trois plans de déposés, et zéro montant de mis à cet effet-là. Non seulement ça, quand on regarde d'autres pays dans le monde qui ont pris le maintien à domicile de façon sérieuse, leur budget en santé a comme été inversé. C'est-à-dire qu'on va allouer de 60 à 75% en ce qui a trait aux services à domicile et un autre 30-35% aux hôpitaux. Ici, on est complètement à l'inverse. Tout le monde chicane avec les chiffres, là. Mettez-en 20-25% si vous voulez au maintien à domicile. On est beaucoup en deçà de ce que ça prendrait pour assurer ça. Et on a beaucoup, beaucoup vers les hôpitaux. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre nos hôpitaux à terre, loin de là. Je suis en train de dire que notre système de santé doit être revu, modifié, on doit innover. Il y a des pays qui l'ont fait, qui vieillissent beaucoup moins vite que nous. Puis nous, on tarde à le faire et on le fait en fait carrément pas.
Mm-hmm. Et il y a eu plusieurs études dans les dernières années qui disaient que justement, le maintien à domicile va au final, ou en tout cas sur le long terme, occasionner moins de dépenses dans le système de santé plutôt que d'envoyer les gens, d'institutionnaliser finalement les services.
Tout à fait. Donc, de ce côté-là, on n'a pas vu grand-chose et on est très déçus. De l'autre côté, si on regarde au niveau des travailleurs d'expérience, qu'on appelle, bon, le crédit d'impôt là, par rapport aux travailleurs pour les inciter à demeurer au travail plus longtemps était à 63 ans. On l'a descendu à 62, ce qui est très bien parce qu'en soi, l'âge moyen de retraite à peu près au Québec, c'est 61 quelques. Donc, tout près de 62. Donc là, on vient de toucher les gens directement, de dire ben, si vous restez au travail, vous allez avoir des avantages additionnels. Parce que ce qu'on veut, c'est garder les gens travaillent plus longtemps. Donc, c'est intéressant. Mais il faut donner des avantages autant aux employés qu'aux employeurs pour qu'ils nous gardent. Là. Parce que c'est pas vrai que les employeurs sont tout contents de garder des gens 65, 67 ans. Là. C'est faux de penser ça. Au Québec, les chômeurs découragés qu'on appelle, là, 66% de ces gens-là, ce sont des gens entre 45 et 64 ans. Et cette statistique-là n'a pas changé depuis la fin des années 90. Donc c'est assez alarmant. Ça veut dire qu'on n'a pas évolué face aux travailleurs d'expérience dans notre société depuis plus de 15 ans.
Donc, c'est une nouvelle classe, finalement, de travailleurs qui se retrouvent à être plus vulnérables. En terminant, M. Prudhomme, demain, le 22 mars, c'est le dépôt du budget fédéral. Quel dossier est-ce que vous allez surveiller?
Ben, écoutez, comme notre gouvernement au Québec n'a pas bougé sur notre ce qu'on appelle notre régie des rentes du Québec, à l'instar de l'Ontario, qui, eux, ont bonifié à 40 % le revenu du travailleur une fois à la retraite avec leur régime à eux. Nous, ce qu'on demande au fédéral, c'est de suivre l'Ontario et de l'imposer à travers le pays, ce qui fait que dans notre confédération, la façon que ça fonctionne, si le gouvernement fédéral allait de l'avant et que l'Ontario est allé de l'avant, le Québec sera obligé de bouger et de mettre, au lieu d'un maigre 25 % de nos revenus à la retraite dans à la régie des rentes, on serait obligé d'avoir 40 %, ce qui est assurer une qualité de vie adéquate à la retraite pour tous les citoyens qui travaillent dans le fond.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Ça va être des dossiers qu'on va surveiller, sachant que le dépôt est demain, mardi, le 22 mars, à suivre. Merci beaucoup, M. Danny Prudhomme, directeur du réseau FADOC, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Alors, le fun aller à l'hôpital avec Jonathan Pinchot qui nous chante La belle infirmière. C'est tiré de son album La tête haute, une parution de 2016. Si ça pouvait toujours être comme ça, on aurait des malades heureux un peu partout. Et on continue avec notre dernier segment de l'émission. Vous êtes toujours à Ça vaut le détour. Situé à 40 km au nord de Joliette, sur une presqu'île de 40 acres aux abords du lac Pierre, le camp Papillon accueille chaque année près de 700 campeurs durant ses séjours réguliers. Le fonctionnement du camp Papillon relève de la Société pour les enfants handicapés du Québec. Je joins au téléphone Mme Alix Gauthier-Loisel, directrice du camp Papillon. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, merci, pareillement.
Oui.
Tout d'abord, puisque le camp Papillon relève de la Société pour enfants handicapés du Québec, présentez-nous brièvement l'organisme.
Enfin, la Société pour les enfants handicapés du Québec est un organisme qui a été créé en 1930, donc ça fait assez longtemps. Sa mission, c'est d'accompagner les enfants handicapés dans la réalisation de leurs rêves et aussi d'accompagner leurs parents là-dedans. Donc, on fournit plusieurs services pour aider les parents et, dans le fond, pour que les enfants tripent comme n'importe quel enfant, si je peux me permettre.
Oui, oui. Bien, c'est l'objectif, c'est la participation sociale, mais c'est aussi le plaisir, c'est la qualité de vie qui entre en ligne de compte. Depuis quand le camp Papillon existe-t-il?
Le Camp Papier a été créé, dans le fond, en 1938. Donc, on a fêté nos 75 ans là, récemment. Sa mission a toujours été la même. Donc, ça a vraiment accompagné les enfants handicapés dans le plaisir du camp de vacances. Dans le fond, comme n'importe quel enfant, ça a commencé avec des gens atteints de la polio. Aujourd'hui, on accueille une clientèle de toutes sortes. Dans le fond, tous les types d'handicaps sont acceptés. En fait.
Mm-hmm. Une des particularités du camp Papillon, c'est que vous recevez notamment les enfants lourdement handicapés, ce qui n'est pas possible dans tous les camps de vacances ailleurs au Québec.
Non, exactement. On aime beaucoup tous les enfants handicapés, mais justement, on a même créé on a bâti un nouveau pavillon entièrement adapté là, pour les gens en fauteuil roulant et avec des élèves personnes au plafond, bain thérapeutique et tout ça. On a aussi une équipe d'infirmières sur place 24 heures sur 24 pour donner tous les soins nécessaires aux enfants qui ne pourraient pas aller dans un autre camp de vacances sans ces soins-là.
Justement, les enfants que vous accueillez, dressez-nous un petit portrait des campeurs que vous recevez. On parle de 700 jeunes, c'est quand même énorme.
Oui, ben c'est ça. Comme je vous dis, nous, on n'a pas de barrière. Donc, c'est vraiment, on accueille tous les enfants handicapés, tous les types d'handicap. On va de la déficience intellectuelle légère à profonde. On accueille des enfants autistes, on accueille des jeunes en fauteuil roulant avec la dystrophie musculaire, par exemple. Donc, on est vraiment un champ large. On n'a aucune limite dans ce qu'on peut faire.
Aujourd'hui, c'est 90 édifices qui constitue le camp Papillon. Il y a différents services. On parle il y a une chapelle, un pavillon des sports, une bibliothèque, une salle commune, et il y a des services médicaux aussi sur place.
Oui, exact. Comme je disais, là, on a un bâtiment entièrement adapté pour la clientèle plus lourdement handicapée physiquement. On a des infirmières qui ont une clinique infirmière. Il n'y a pas de médecin, mais des infirmières qui sont aux petits soins avec tous les campeurs qui en ont besoin. Donc, pour les gavages et tout autre traitement qu'ils pourraient avoir.
Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un soutien quotidien, finalement.
Oui, exactement.
Les campeurs viennent pour des séjours de combien de temps?
C'est des séjours de 10 jours qu'on fait cette année. Ça commence le 10 juin avec notre séjour adulte et ça se termine autour du 14 août avec notre clientèle, je vais dire un pour un.
Et le fonctionnement du calendrier du camp, vous dites justement que vous commencez en juin avec la clientèle adulte. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous séparez les camps en groupes d'âge?
Exactement. Donc, pour vraiment permettre à tout le monde d'avoir sa chance et d'avoir les activités bien adaptées avec son groupe d'âge, on a séparé, on a 5 séjours avec des groupes d'âge différents. Donc, on commence avec les adultes, les jeunes adultes, les adolescents et les enfants.
Et quel type d'activités on peut retrouver dans chacun de ces camps-là?
On adapte chacune des activités du camp, va se retrouver dans chacun des camps, mais on fait de la baignade dans le lac, évidemment, de la chaloupe, disons, un ponton, on a nouvellement une tyrolienne adaptée, donc ça va être cet été, c'est la première fois qu'on va en faire avec nos campeurs. Ensuite de ça, on fait de l'hébertisme, de l'escalade, vraiment toutes les activités d'un camp de vacances.
Et il est possible aussi de louer un chalet pour les parents qui désirent accompagner leur enfant.
Exactement. On a aussi des chalets là, en location. On privilégie justement aux parents. Des fois, les parents sont un peu inquiets. On ne sait pas trop si c'est la première fois que notre enfant part de la maison et tout ça. Donc, nous, on offre le chalet pour quelques jours pour que les parents puissent bien voir qu'est-ce que c'est le camp. Donc, il y a aussi la possibilité que les enfants dorment avec les parents dans le chalet et viennent au camp juste comme un peu en camp de jour.
Mm-hmm. Donc, le camp Papillon est situé dans la région de Lanaudière. Votre organisme offre aussi un camp de jour à Montréal.
Oui, exactement. Donc, il y a un camp de jour à Montréal, situé là à notre bureau-chef, à la Société pour les enfants handicapés même. Ça va de pour les enfants en bas âge et pour les adolescents aussi. Donc, vraiment un service complet là, à ce niveau-là à Montréal.
Et vous offrez aussi des week-ends de répit à partir du mois de septembre. Donc, une fois que vous sortez de votre saison occupée, on peut aller chercher aussi du répit. Comment ça se passe?
Donc, les répits, c'est environ 2 à 3 fins de semaine par mois au camp Papillon. Donc, on a un autobus qui part de Montréal le vendredi soir et qui s'en vient au camp. On retourne le dimanche en fin d'après-midi et on fait vraiment plein d'activités. Là. On se permet aussi un peu de sortir. On va aux pommes, à la cabane à sucre. On fait des activités comme le traîneau à chien, des choses comme ça. Donc, on s'amuse vraiment beaucoup pendant l'hiver.
Et c'est toute l'année qu'on peut avoir accès à ces services de répit?
Oui, exactement.
Et c'est seulement c'est pour la fin de semaine seulement, donc on parle. Est-ce que le coucher est pris en charge aussi?
Oui, le coucher est pris en charge le vendredi soir et le samedi.
Et comment est-ce qu'on fait pour comment arrivez-vous à faire toutes ces activités, à offrir tous ces services qui sont assez diversifiés?
On est avec une équipe d'animateurs vraiment dévoués qui adorent leur travail. Je pense que c'est ça qui fait la réussite du camp, dans le fond. Donc, tous nos moniteurs nous amènent tout le temps plein d'idées, nous poussent à trouver l'argent pour réaliser ces activités-là. Donc, c'est vraiment notre personnel dévoué qui fait un peu la magie du camp Papillon.
Justement, votre personnel, on a vu qu'il regroupait des gens de différents horizons. C'est combien de personnes qui travaillent au camp Papillon?
En été, on a jusqu'à environ 150 personnes qui vont travailler au camp pour offrir vraiment un séjour adapté à chacun et vraiment que tout le monde soit bien.
Et est-ce qu'il reste des places pour l'été 2016, si on commence à planifier nos vacances?
Oui, il nous reste des places. Donc, il suffit juste d'aller sur notre site Internet au www.enfantshandicapés.com. Ou appeler à notre numéro de téléphone et vous allez avoir toutes les informations.
Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que ça arrive que c'est complet très rapidement et qu'il y a une liste d'attente ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Oui, c'est sûr que si on est complet, dans certains groupes, on est déjà complet. Donc, s'il y a une liste d'attente, si jamais il y a des désistements et tout ça, et des fois, on ouvre des places supplémentaires parce qu'on aime ça, que vraiment tout le monde puisse avoir ses vacances et sa place.
Madame Gauthier-Loisel, j'aimerais vous entendre très rapidement. Je ne veux pas revenir nécessairement sur la controverse, mais l'été dernier, il y avait eu dans les médias plusieurs sorties de parents, notamment de la région de Québec, qui réagissaient car on fermait les places dans les camps de jour et les camps de vacances pour les enfants lourdement handicapés. Quel est votre point de vue là-dessus?
Mais c'est nous, on est un camp de vacances pour les enfants handicapés. Donc, je trouve ça dommage parce que moi, notre but, c'est d'avoir l'accessibilité au camp pour tous ces enfants-là. Je comprends que des fois, les parents ou les enfants aiment ça aller dans des camps de jour réguliers. Je pense que l'intégration est une bonne chose et je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus. Mais c'est sûr que au camp Papillon, c'est notre spécialité, donc on accepte vraiment tout le monde. Et c'est ça, c'est ça.
Heureusement, vous êtes là. J'ai une statistique, il y a justement plus de 4300 enfants et jeunes de moins de 24 ans qui sont handicapés dans la Naudière. Et au Québec, ils représentent plus de 65 000 jeunes. Ça fait beaucoup de campeurs potentiels, beaucoup de besoins à s'occuper. Est-ce qu'il y a un âge limite pour pouvoir participer aux activités du camp Papillon?
Non, on accueille vraiment notre plus jeune campeur l'été dernier avait 2 ans et demi et notre plus vieux avait 75 ans, donc on est vraiment accessible pour tout le monde.
Merci beaucoup vraiment de nous avoir partagé la mission du camp Papillon, même si ça fait 75 ans que vous êtes actif. Plusieurs auditeurs chaque jour peuvent découvrir votre organisme. Merci beaucoup d'être présent pour les jeunes en situation de handicap et leur famille. Le Camp Papillon, qui est chapeauté par la Société pour les enfants handicapés du Québec. Madame Alix Gauthier-Loisel, vous êtes directrice du Camp Papillon. On vous souhaite une bonne saison 2016.
Parfait, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci. We'll be right back. La lumineuse Valérie Carpentier avec sa pièce « L'été des orages » tirée de son album « Le bout du monde ». C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Je remercie mes invités Alix Gauthier-Loisel du Camp Papillon, M. Danny Prudhomme du Réseau FADOC, Sylvain Noël de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval et on avait commencé l'émission avec Geneviève Labrecque du Regroupement pour la trisomie 21. Recherche et médias sociaux, Christian Campagnat, mise en onde Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.